Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et ce débrief de la tech avec nos invités. On a beaucoup de sujets dont on va parler. L'autorité de la concurrence, je dis à l'enfant, il y a un instant, qui lance une alerte sur l'IA. Il y a eu beaucoup d'auditions et puis ça suit un peu ce qu'a fait la FTC américaine, la CMO britannique aussi. Alors, est-ce que OpenAI, Microsoft, Anthropic, Amazon, notre Mistral, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de concurrents? Il n'y a pas, peut-être pas assez de concurrence. En tout cas, c'est ce que se dit l'autorité de la concurrence. On va en parler. On va parler aussi, tiens, en parlant de concurrence, eh bien, c'est l'Union européenne qui estime que Meta, avec Facebook et Instagram, viole les règles sur les données personnelles en donnant, vous savez, ce petit abonnement payant où, du coup, on ne reçoit pas de pub. Et bien là, il y a des choses que l'Union européenne n'aime pas trop dans le cadre du DMA. Alors, l'Union européenne qui est quand même assez agressive en ce moment. C'était Apple la semaine dernière, c'est Meta cette semaine. On parlera aussi de l'impact des législatives sur les entreprises, sur la tech française. On reviendra aussi sur ces partenariats entre Apple. Alors, Apple et OpenAI, on le connaît, mais maintenant Apple et Google Gemini. En attendant Apple et Anthropic. On va essayer de comprendre un peu tout ça. Et puis, tiens, en fin de débrief, on parlera encore d'Apple avec des AirPods qui intègrent une petite caméra infrarouge. On essaiera de comprendre pourquoi. Et puis, Meta, décidément, c'est les deux acteurs du soir qui fait le teasing de ses futures lunettes holographiques. On va parler de tout ça avec nos invités. Damien Douani, bonsoir.
Bonsoir, Fred.
Damien, responsable de l'innovation de l'école narrative avec deux I et fondateur du cabinet de conseil Lab 36. À tes côtés, Alain Goudet. Bonsoir, Alain.
Bonsoir, Fred.
Merci d'être avec nous, directeur général adjoint de Neoma Business School et au fait de toutes ces activités. Je vous conseille toujours le compte X d'Alain qui vous donne vraiment l'actualité au jour le jour. Il nous fait même un débrief à la fin de la semaine sur toutes ces actualités et son analyse autour de l'intelligence artificielle. Puis avec nous également Hugo Weber. Bonjour Hugo.
Bonsoir Fred.
Merci d'être avec nous, directeur des affaires publiques de Miracle. Et on reviendra justement sur quand la French Tech s'inquiète. Voilà, enfin, on en parle beaucoup. On va essayer de comprendre aussi tout ça. Alors, on va démarrer avec un premier sujet. Alors, ce matin, on a appris que l'autorité... Enfin, non, c'était vendredi. On apprenait que l'autorité de la concurrence s'inquiétait un peu de tout ce paysage qui donne encore la part belle aux Américains. Là, on a quelques Français, des Mistral, des Greenface qui se glissent derrière tout ça. On a des entreprises aussi utilisatrices qui se glissent derrière tout ça. Mais voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu trop de... Est-ce que la concurrence peut se mettre en place je ne sais pas, Hugo, tiens, je vais démarrer avec toi.
Merci de me lancer la balle comme ça, Fred. Non, mais effectivement, c'est un vrai sujet aujourd'hui, celui de la concurrence dans l'IA générative. Et ce qu'a fait l'autorité de la concurrence, en fait, c'est simplement de lancer il y a quelques mois une étude en demandant aux entreprises, aux utilisateurs de l'IA générative de donner un peu leur feedback sur ce qui se passait pour elles. Et aujourd'hui, on assiste aux conclusions.
Une cinquantaine d'auditions, hein, c'est ça.
Et voilà, il y a une cinquantaine d'auditions. Il y a, je crois, plus de 200 entreprises qui ont rendu leurs observations à l'autorité de la concurrence. Et l'autorité de la concurrence publie aujourd'hui son avis. Moi, je trouve que c'est quelque chose déjà d'assez positif que l'autorité de concurrence française se penche sur ces sujets-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a un sujet, et tu sais, mon penchant pour ça, Fred, le côté régulation versus le côté innovation. Oui. J'ai peur qu'à un moment donné, on prive aussi des entreprises françaises, des acteurs français qui émergent comme Mistral, d'entrer sur ce marché-là par une barrière à l'entrée, celle de la régulation qui pourrait être un peu trop importante.
On rappelle, hein, il y a eu, alors, par exemple, c'est l'accès au GPU, les restrictions au marché, la fixation des prix, les conditions contractuelles. On estime peut-être que, est-ce que Microsoft, qui investit 13 milliards dans OpenAI, est-ce que c'est pas un rachat déguisé? De la même façon, Google, Amazon, qui mettent de l'argent dans Anthropic avec son modèle cloud. Là, on se pose des questions. Alain, quel est ton regard?
Non, mais c'est un vrai sujet, hein. Effectivement, c'est une bonne chose que l'autorité de la concurrence s'intéresse. J'ai envie de dire, il est temps, parce que tout ça n'est pas très nouveau. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'un des vrais sujets autour de l'IA générative, on l'a déjà vécu finalement à l'époque de l'émergence des plateformes, on l'a vécu avec l'arrivée d'Internet. Enfin, voilà, on voit bien que pour arriver à faire fonctionner une IA générative, il y a en fait toute une pile de technologies qu'il faut être en capacité de maîtriser. Et là, j'ai envie de dire, le réveil français ou européen est un peu tardif sur le sujet. Donc, on voit bien que il y a des enjeux de maîtrise du hardware, d'être en capacité de contrôler ça. On voit bien qu'il y a clairement des goulots d'étranglement, hein, ne serait-ce que toute la partie interface CUDA de NVIDIA, qui est aujourd'hui une des briques incontournables en fait, de l'IA générative.
Ils ont tout fait pour que ce soit incontournable.
Tout est fait pour que ça soit incontournable aujourd'hui. Donc voilà, on a cette prise de conscience là. Maintenant, la vraie question, c'est comment on gère justement justement de permettre l'éclosion d'un certain nombre de nouveaux acteurs français, européens, sur l'ensemble de cette pile technologique qui est assez vaste au final.
En plus, il y a de l'actualité. Donc ça, c'est, je disais, c'est vendredi, on a appris que l'autorité de la concurrence se penchait un peu sur ces IA. Et puis aujourd'hui, on apprend que Nvidia est dans le collimateur, il y a une des perquisitions. On est en train de regarder comment Nvidia verrouille un peu trop le marché, ne donne accès aux GPU qu'à ceux qui payent. Enfin voilà, il y a toute une enquête qui est menée. Il n'y a encore aucune accusation. Mais voilà, puis il y a aussi autour de la guerre des talents. Enfin, il y a beaucoup de sujets.
Il y a aussi la question des crédits cloud. Donc, quand on, d'ailleurs, ce qui est arrivé avec beaucoup d'entreprises auparavant, le fait que pour monter sa société, on va proposer du crédit. Donc, autrement dit, on vous donne de l'espace cloud. Amazon et Microsoft sont très bons dans le sujet, mais en faisant ça, ils verrouillent, bien entendu, les entreprises. Donc aujourd'hui, moi, je suis pour le fait qu'il ne faut pas trop de régulation, mais je pense que c'est quand même pas mal d'aller regarder par là-bas. Sur des sujets comme Nvidia, là, je pense que c'est plus un problème technique. Autrement dit, qui aujourd'hui est capable d'être face à Nvidia, face à leur technologie, ça se discute. En revanche, sur les acteurs de cloud, l'IA, c'est un moyen supplémentaire de verrouiller les acteurs. Comme ce sont des technologies qui sont énormément dévoreuses de ressources, le fait de leur dire, on vous donne open bar sur une partie du cloud, ça aide des startups, logiquement, mais ça verrouille complètement. Donc, c'est plutôt pas mal d'aller regarder par là, je trouve.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors certes, ils invoquent, ils disent, voilà, on va essayer d'aller chercher dans les lignes, les sous-lignes, les sous-articles du DMA, voilà, pour essayer de contrer tout ça. Je sais pas, Alain, tu as regardé un petit peu, qu'est-ce que pourrait faire l'autorité de la concurrence? Parce qu'on va pas dire à Nvidia, cassez vos prix et proposez à tout le monde.
C'est pas juste le sujet de l'autorité de la concurrence. Je pense que c'est la fameuse problématique d'émergence d'un écosystème. On voit qu'il y a eu quand même pas mal d'actions très concrètes réalisées ces dernières années avec, je crois, et Hugo peut en témoigner, des actions très positives sur l'écosystème du digital globalement et plus spécifiquement de l'IA. L'émergence de Mistral est un bon curseur, dont on parle d'ailleurs dans la Silicon Valley. J'y étais il y a 3 semaines. À Stanford, on me dit « Ah, mais alors, qu'est-ce que tu penses de Mistral ?» C'est une vraie démarche, open source, on s'y intéresse de près, etc. Donc, je pense qu'on a des vrais atouts à faire valoir. Mais voilà, c'est cet arbitrage régulation-innovation et puis surtout création d'un contexte de confiance suffisant pour permettre à un certain nombre d'acteurs d'investir, parce qu'une fois encore, l'évoquais, Microsoft et OpenAI, c'est 13 milliards de dollars. Amazon d'Anthropic, de mémoire, c'est 3 ou 4 milliards de dollars. Bon, voilà, on voit que c'est des sommes qui sont colossales. Aujourd'hui, en France et en Europe, on n'est pas du tout sur les mêmes schémas d'investissement. Nous, c'est quand même beaucoup porté par l'écosystème public, avec BPI France qui fait un travail formidable.
Et on reviendra sur justement ce que peut changer ces élections législatives, parce que là aussi, il y aura peut-être des décisions qui seront compliquées.
Et du coup, c'est vrai que voilà, faire émerger un écosystème, ça n'est pas facile. Il y a de la maîtrise technologique, mais ça, bon, voilà, je pense qu'on est en capacité de rattraper un certain nombre de choses. Mais il y a cette prise de conscience au niveau des décideurs publics, effectivement, de permettre l'éclosion de cet écosystème qui permettra, du coup, à la France et à l'Europe de davantage rayonner sur le sujet de l'IA générative.
Je pense qu'il faut beaucoup de granularité dans l'analyse de l'autorité de la concurrence. Oui. C'est ça qui va être extrêmement important. Oui. On a beaucoup crié au loup quand Microsoft a noué ce partenariat avec Mistral. Tout le monde disait, oh là là, c'est incroyable.
Ils sont vendus.
Voilà, ils sont vendus au diable. La réalité, c'est que nos entreprises françaises, elles ont aussi besoin de s'appuyer de temps en temps sur des partenariats de distribution à l'échelle mondiale avec des acteurs mondiaux que peuvent être des hyperscalers. Donc, il y a aussi ce sujet-là à un moment donné de permettre aussi l'éclosion de nos entreprises européennes au travers de la puissance de frappe d'acteurs non européens aussi.
C'est ce que l'on voit dans le quantique. On voit ils s'appuient, je sais plus lequel d'entre eux s'appuie sur IBM justement pour aller sur Kindred ou sur IBM, je sais plus, pour aller en tout cas à l'international. On est obligé de passer par là.
Et comme tu le disais, la chaîne de valeur aujourd'hui, elle est extrêmement fragmentée entre la Chine qui maîtrise très profondément l'extraction et la mise sur le marché de métaux rares qui vont servir à la fabrication des puces, ASML, entreprise française qui maîtrise le design et la fabrication des parties
néerlandaise.
De ces puces.
Européenne, on va dire.
Allez, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit française?
Oui.
Non, néerlandaise.
Dirigée par un Français, voilà.
Dirigée par un Français. Nvidia qui fabrique les puces elles-mêmes, les hyperscalers et ensuite les LLM, donc les modèles de langage qui vont être utilisés par des entreprises comme Miracle pour déployer sur des use cases. Enfin, la chaîne de valeur, elle est très, 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 très verticalisée, en fait. Et aujourd'hui, peu d'entreprises, voire pas d'entreprises, la maîtrisent de bout en bout dans sa verticalité.
Alors, ils disent aussi, hein, je regardais un peu en détail cette annonce là l'autorité de la concurrence, ils voudraient aussi que les startups aient accès plus facilement à des supercalculateurs. Alors, on sait qu'on a le supercalculateur Jean Zay, là, notamment à Orsay, et qu'il est accessible, hein, elles peuvent y aller, mais voilà, qu'il y ait davantage d'initiatives comme ça, hein, Damien.
Oui, davantage d'initiatives, de fluidité pour permettre d'accéder à des machines, on va dire, qui aujourd'hui... Ben, on retrouve la même mécanique de dire, mais quelles sont les ressources que peuvent avoir les startups pour pouvoir se développer?
On rappelle, peut-être, rappelle-nous, pour l'IA, il y a une partie entraînement et une partie indexation, RAG et tout ça. Hein,
oui, c'est ça. Bon, oui, il y a différents modèles, mais en gros, il y a toujours du cloud derrière, soit du cloud qui va permettre de faire du développement, on va dire, sur la base de données privées, mm-hmm. qu'on appelle le RAG, mais avec un modèle aussi qui est très souvent du LLM, donc le modèle en fait de langage, on va dire, le cerveau, pour simplifier très très ouais. rapidement, qui permet de faire fonctionner un peu tout ça. Donc après, soit c'est de la donnée qui vient de l'extérieur, soit de l'intérieur, soit éventuellement un mélange des deux. Il y a besoin de puissance dans tous les cas de figure. Donc cette puissance-là, tu parlais de supercalculateur, ouais. c'est quelque chose qui peut être extraordinaire pour pouvoir, en fonction justement aussi du domaine de l'entreprise. Si on est une start-up qui travaille dans le domaine médical, par exemple, on a besoin de puissance pour pouvoir faire ces calculs-là.
Autre sujet, ben tiens, qui intéresse évidemment Alain en tant que DGA de Neoma Business School, c'est la guerre des talents aussi. Et là, l'autorité de la concurrence se dit attention à pas trop verrouiller les contrats, parce que fort heureusement, Mistral sont des anciens de Google, de Google DeepMind, de Meta. On a H aussi, cette nouvelle start-up, pareil, ce sont des anciens. Enfin, ils sont tous passés. D'ailleurs, c'est assez démonstratif aujourd'hui quand on regarde toutes ces grandes, ces belles pépites. Ils ont tous à peu près le même profil. Ils sortent de grandes écoles. Ils ont fait une dizaine d'années pas forcément à Silicon Valley, mais en tout cas chez des grands acteurs américains. Et puis, ils viennent créer leurs entreprises. Et là aussi, il ne faut pas trop les verrouiller dans leur entreprise.
Quoi.
Et ils sont souvent français.
Oui, en plus, oui.
Alain.
Non, mais la guerre des talents, c'est dans le numérique un énorme sujet. Sur l'IA spécifiquement, les contrats de toute façon sont extrêmement verrouillés. Tout le monde se connaît hein, aussi dans cet environnement-là. Et c'est vrai que finalement, on est sur d'un point de vue technologique, on est quand même sur un monde et un univers qui évolue à une vitesse quand même juste hallucinante au regard des nouveautés qui sont sorties. Mais tout ça, c'est fortement accéléré aussi, hein. C'est-à-dire que le web permet ça, notamment à travers aujourd'hui, si on veut suivre l'actualité scientifique des LLM et de l'IA générative, il faut aller en fait sur Arxiv pour avoir ça au quotidien. Et c'est des dizaines de papiers par jour en fait oui. qui sortent avec des collectifs, d'équipes et finalement un peu toujours les mêmes labos de recherche en arrière-plan. Donc voilà, c'est un écosystème qui aujourd'hui est extrêmement foisonnant, mais finalement avec comme tu le dis, des points de passage un peu obligés par les grands acteurs de l'IA qui finalement permettent probablement d'accélérer dans sa compréhension du machine learning.
De drainer tous ces...
Exactement.
Tous ces talents.
Sur la question des talents, si c'est assez amusant de savoir ouais. qu'il y a quelques années de cela, dans la Silicon Valley, il y avait une règle qui était non écrite, mais qui était on ne débauche pas les talents des autres. Ouais. Quand Adobe a commencé à venir faire son marché chez Apple, Steve Jobs a envoyé un mail très vert hein, aux gens
ah oui, c'est vrai,
fait, vous allez arrêter
ça. Ouais.
Tu te rappelles de ça
ouais.
Vous arrêtez immédiatement. Depuis, cette règle s'est largement assouplie.
Ouais, ouais. Ils font des allers-retours. Hein.
Voilà, et puis maintenant, effectivement, il y a un vrai marché aux talents, puisqu'on est sur des talents rares. C'est vrai, très souvent en français, bon, mais ça fait plaisir. Mais au-delà de ça, effectivement, des talents assez rares, et comme tu le disais, qui ont été formés très souvent dans des grands acteurs, qui sont certainement les seuls à pouvoir assumer les coûts de développement de ce type de technologie.
En plus, on va en reparler avec certains d'entre eux. C'est des talents rares, et c'est un peu. Alors, il y a beaucoup de développeurs en IA, mais ceux qui ont vraiment le cerveau, enfin ceux qui ont vraiment les penseurs derrière tout ça, ils sont pas aussi nombreux que ça. Hein. On a peut-être une petite centaine à travers le monde et par chance, on en a beaucoup, beaucoup français.
Donc et c'est des salaires du coup qui grimpent en flèche. Oui. Ah, c'est plus de $800,000 quand on est top ingénieur en machine learning chez un des grands de l'IA.
Hein. Oui, c'est pas que le salaire, c'est aussi le challenge technique qui est proposé justement à ces développeurs en IA ou à ces AI scientists comme on les appelle. Aujourd'hui, ils cherchent aussi un défi technologique, ils cherchent aussi un défi de développement avec un jeu de données qui est conséquent, avec une puissance de calcul qui est conséquente. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, les entreprises qui sont capables de leur offrir, c'est souvent des entreprises anglo-saxonnes.
Oui, exactement. Et puis, c'est vrai que quand on voit la façon dont nous, entre guillemets, on s'amuse à faire nos prompts et à travailler avec, on imagine quand on est développeur et qu'on est passionné par ça, on doit prendre aussi beaucoup de plaisir et de passion à développer tout ça. Autre sujet, alors on reste en Europe, on reste avec une big tech. C'est c'est l'Union européenne qui estime que Meta viole les règles sur les données personnelles. Alors, vous savez, depuis l'entrée en vigueur, il y avait le RGPD, il y a eu l'entrée en vigueur du Digital Market Act, c'était il y a tout juste un an. Enfin, il y a novembre 2002, l'entrée en vigueur et l'application il y a un an. Et on se dit, bon, voilà, l'Union européenne s'est dit, on va donner un an un peu à tout le monde pour s'organiser. Et puis là, ça y est, ça commence à tomber. On avait Apple la semaine dernière autour de l'App Store, l'interdiction, enfin, plusieurs impositions, interdictions aux développeurs. Là, c'est Meta qui se fait, alors, plus que taper sur les doigts, enfin, taper sur les doigts pour l'instant, on verra plus tard parce que ça peut leur coûter cher. En gros, on dit, voilà, nous, on laisse la liberté aux utilisateurs d'être traqués ou pas par la pub. Mais tiens, si vous voulez pas être traqué, vous payez. Donc, et l'abonnement, c'est 10€ ou 13€ selon que ce soit sur le mobile ou sur le web. Ça permet à Meta de récupérer la pub qu'ils ne feront pas. Mais là, l'Union européenne indique que non, c'est pas bien. C'est-à-dire, l'utilisateur, s'il décide de ne pas être traqué, ça doit être gratuit. Alain.
Oui, c'est l'histoire du payer ou consentir. Hein, voilà. Ce qui, pour l'Union européenne, est un non-choix, quelque part. Or, justement, un des rôles du DMA, c'est d'essayer de redonner un peu de choix et d'équilibre, finalement, dans cet environnement largement monopolistique, hein, presque sur certaines plateformes. Donc c'est normal que l'Union européenne joue ce rôle-là. L'amende, je crois, est de l'ordre de 13 milliards d'euros.
L'amende, ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Donc on fait le calcul pour Meta, ça peut faire 12 milliards.
Oui, on est sur du 12-13 milliards. Donc c'est vrai que c'est colossal. Bon, du coup, Meta a une position assez
ils ont un an,
courtoise, on va dire.
25 pour essayer de voir.
Ils ont du temps, ils ont dit on est ravis d'ouvrir la discussion, ils vont continuer à avancer. Bon, en attendant, ça fait déjà quand même plusieurs mois que ce système-là est en place et ça permet évidemment d'installer aussi un certain nombre d'habitudes. Et là, c'est la mécanique assez classique des plateformes, de pouvoir finalement, par un peu la technique du pied dans la porte, on évoquait tout à l'heure, donner finalement aux startups accès à des infras de cloud. Bon, là, c'est un peu la même stratégie, on donne accès à des plateformes sociales, au départ gratuitement, on monnaie évidemment la data via la pub et puis comme on a un cadre réglementaire, on dit ok, si tu veux plus être traqué, on te propose finalement de payer ton abonnement. Bon, voilà, c'est pas vraiment d'une grande liberté parce que évidemment le DMA dit non, mais si on est ni sur l'un ni sur l'autre, il faut quand même pouvoir accéder au service sans un trop grand retrait de qualité. Et c'est là où en fait se place le sujet dans les échanges entre l'Union européenne et Meta.
Ils disent l'Union européenne dit on n'est pas contre les abonnements, mais si quelqu'un s'abonne, c'est pour avoir d'autres services, Damien.
Oui, alors d'autres services, après, c'est le problème un peu du on-off. Quand on est une société qui a construit son succès sur l'exploitation des données personnelles pour faire son business, c'est un peu compliqué le jour au lendemain, de manière gratuite. C'est comme si c'est la stratégie du dealer. Hein. C'est comme ça, on disait, tu avais ta dose gratos, maintenant, il faut payer. Effectivement, c'est un peu compliqué. Moi, la question que je me pose derrière en creux, c'est que c'est peut-être quelque chose qui peut être hyper intéressant pour des acteurs nouveaux qui arrivent sur le marché, mais quand on est un acteur comme Meta dont le business model est celui-ci, et donc les utilisateurs sont, on va dire, habitués à ne pas payer. Moi, quand j'ai eu le choix, je fais non, je continue à être gratuit parce que je vois pas la valeur intrinsèque de mettre un abonnement sur Instagram. Y a aussi cette question-là qui est un peu un angle mort quelque part pour des acteurs comme ceux-là. Mais bon, ils ont les moyens de payer, comme tu l'as souligné. Dans tous les cas de figure, la question elle est quelle est la voie médiane. Alors la voie médiane, c'est soit trouver un moyen du style vous payez un peu et on dégrade un peu le service et on trouve quelque chose qui est médian et tout le monde est content, ou effectivement, comme tu le disais, proposer des offres en plus, des serveurs en plus. C'est ce que fait d'ailleurs Twitter quelque part, X avec Premium, qui quelque part est assez malin en rentrant cette logique de Premium maintenant qu'il y a trois niveaux. On peut quand même utiliser le service gratuitement, et puis sinon on peut jusqu'au niveau maximum, les données ne sont pas utilisées on n'a pas de publicité, ça veut pas dire que les données ne sont pas utilisées, et il y a des dégradations intermédiaires. C'est pas idiot de la part de Musk, parce qu'il apporte aussi dans la balance des fonctionnalités supplémentaires.
Hugo.
Alors moi, il y a trois réflexions qui me viennent. La première, c'est que ça confirme l'adage qu'on a souvent entendu, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le client. Ça, c'est la première des choses, et je pense que ça met un peu le focus là-dessus, où les gens sont réellement le client de... Enfin, c'est toi le produit, pardon.
Le produit, plutôt.
Oui, le produit. C'est toi le produit du service. Deuxièmement, ça met en avant aussi l'innovation que peuvent apporter dans les processus bruxellois, réglementaires et autres, des firmes des big tech. On l'a vu avec avec Apple et la Core Tech Fee qui était proposée sur l'Apple Store, de faire payer les développeurs d'applications pour continuer à utiliser l'Apple Store. On le voit aujourd'hui avec Meta qui propose cet abonnement. Moi, je trouve qu'ils sont quand même d'une créativité qui est formidable.
Les cabinets juridiques sont une créativité extraordinaire. Oui.
Et tout ça, finalement, retarde la mise en œuvre du DSA, du DMA, de l'AI Act, parce qu'on vient proposer de nouvelles choses.
Ah bah là, on est
la commission,
pour 2025 pour.
La commission doit réétudier est-ce que ça rentre dans le cadre, est-ce que ça rentre pas dans le cadre. Donc, effectivement, ça retarde finalement l'application d'une réglementation par le biais de d'innovation qui n'apporte pas du tout de valeur ajoutée au consommateur final. Et le troisième point, je trouve que c'est aussi finalement dommageable pour le consommateur dans un certain sens. Tout le monde peut pas se payer un abonnement à 10€ sur Meta, sur Spotify, sur telle ou telle plateforme, et au final les consommateurs vont devoir faire des choix entre ce qu'il a, et en particulier les consommateurs qui ont les revenus les plus modérés. Et finalement, ne pas avoir de pub, ça revient finalement à favoriser les gens qui ont le plus de ressources, et ça, moi, je trouve ça pas totalement équitable dans le traitement qu'offre les grandes plateformes aux citoyens européens.
C'est souvent ce que l'on dit, hein. On protège le consommateur, mais du coup on embête l'utilisateur. Et moi, le truc le plus, enfin, je trouve que la fonction qui comme vous, comme moi, comme ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est tout bêtement le Google, hein, où on cherche une adresse et maintenant faut ouvrir l'application Google Maps. Alors, et surtout qu'on ouvre Google Maps, hein, on va pas chercher une nouvelle adresse. Donc c'est un peu enquiquinant cette histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu aussi de choses? Alors la première, c'est que l'Europe veut un peu montrer l'écrou en disant, et derrière on a l'IA qui arrive, on a le Data Act, c'est pour montrer que là maintenant, il va falloir vraiment jouer notre partition, au risque de se retrouver comment qualifier de trop contraignant pour l'innovation. Et puis, n'oublions pas, on sort des élections, alors pas législatives, là, mais des élections européennes, avec des nominations à des postes clés en Europe, et c'est peut-être pas mal de montrer que on a un peu de cran, on est commissaire à la concurrence, on n'hésite pas à taper sur les big tech, à montrer tout ça. Non, il n'y a pas un jeu autour de ça, Alain ?
Non, mais il y a probablement un jeu, il y a quand même un vrai sujet, c'est quoi l'alternative ? Ouais. Moi, je veux bien, les réponses qu'on va avoir, et Apple a commencé à esquisser ça avec Apple Intelligence, c'est de dire, on n'est pas compliant, c'est pas grave, on ne va pas en Europe. Et on va avoir ce rapport de force qui va se jouer forcément. Donc, jusqu'où on va être prêt à aller de priver finalement un certain nombre d'utilisateurs européens de ce type de technologie, on pourrait aller assez loin dans ce jeu-là si on avait une alternative. Pour le moment, il faut la construire.
Sachant que le jeu avec Apple est assez malin, parce qu'en fait, Apple a quand même dit qu'il ne venait pas pour l'instant aux États-Unis, en Europe, puisque le produit était disponible uniquement aux États-Unis. Donc c'est un peu de la négo, très clair. Hein. C'est, si on continue comme ça, peut-être qu'on ne viendra pas. Donc oui, c'est le moyen d'embêter l'utilisateur. Et donc on voit bien, c'est ce qui c'est les lignes de force de négociation qui vont se passer. Qui peuvent effectivement être un peu gênantes, mais qui peuvent aussi ouvrir un champ de concurrence.
Tout à fait. Mais c'est le démarrage de la négociation.
Hugo ?
Et les entreprises européennes ne sont absolument pas armées pour se battre à armes égales sur ces jeux de compétition avec Bruxelles. Enfin, vous, très bêtement, vous regardez sur LinkedIn le nombre de personnes qui travaillent chez Amazon à Bruxelles, il y a plus de 250 personnes. Le marché intérieur e-commerce belge ne nécessite pas 250 personnes chez Amazon pour travailler chez eux. Donc toutes ces personnes-là sont des lobbyistes qui travaillent à influer la position des institutions européennes en faveur d'Amazon. Et en fait, ça c'est vrai pour tous les GAFAM. Enfin, c'est de notoriété publique, il y a un registre de transparence.
Il y a un budget énorme.
C'est 1/5 des dépenses de lobbying à Bruxelles, c'est les GAFAM.
Voilà. Et est-ce que ça, je reviens sur ma question aussi, est-ce que l'Europe, c'est un peu pour montrer les crocs, y montrer on existe. Il y a un peu de ça.
Ah bien ça, oui, monsieur.
Hugo, je te vois un petit peu circonspect.
Ouais, je pense qu'ils ont aussi beaucoup de choses à faire aux US avec la Federal Trade Commission. Ouais. Donc non, je pense que ça leur pose un vrai souci quand même parce que c'est pas juste pour montrer les dents. Enfin, ils ont d'autres choses à faire que juste de montrer les dents, je pense. Ouais.
Damien.
L'Europe a été un marché complètement ouvert pendant des années. Je veux dire, c'était open bar pendant des années pour ce que sont devenus les GAFAM. Et l'Europe se réveille tardivement, mais elle a donc besoin d'avoir une réaction qui est à la hauteur du retard. Donc il faut montrer les dents. Et comme la clé que peut jouer l'Europe, c'est un marché suffisamment dense en termes de consommateurs et de valeurs, c'est la clé qu'il faut jouer. Donc c'est maintenant ou jamais, effectivement. Alors si jamais un jour un acteur dit vraiment sérieusement, on vient plus, c'est fini. on va voir ce qui va se passer, mais pour l'instant on est vraiment sur ce fil du rasoir qui est que non, on va pas se retirer. Donc c'est de la négo et c'est très bien fait. Enfin, je trouve que c'est bien vu de la part de l'Europe. Dans tous les cas de figure, c'est une partition qui est logique. Mm-hmm. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut rester que sur le côté coercitif, et il faut peut-être ouvrir aussi sur un autre côté qui serait le développement d'un marché européen, la commande publique, etc. C'est un autre sujet, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait non plus forcément l'autre partie.
Oui, sur ce sujet, je suis assez d'accord avec Alain. C'est quoi l'alternative, quoi? Que l'alternative, on veut bloquer les réseaux sociaux, mais c'est quoi l'alternative aux réseaux sociaux? On veut bloquer le cloud, c'est quoi l'alternative? Alors là, il y a un peu de cloud européen, français, mais...
C'est presque ce qu'on a le plus, le cloud.
Oui, c'est vrai. Les data centers, on en a. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué, là, Alain.
Non, mais on paye le prix, en fait, je pense, d'un manque de culture numérique depuis 3-4 décennies, en fait, en vrai, hein, depuis l'émergence de l'informatique et plus récemment d'Internet. Moi, je crois qu'il y a eu une absence de vision de ce que ça signifiait se positionner sur ces sujets-là. On a eu quelques tentatives, mais pour le coup, effectivement, le marché étant open bar pour les acteurs américains, ils se sont engouffrés avec ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du gratuit, un service hyper qualitatif malgré tout, faut quand même le rappeler.
Oui, il faut.
Voilà.
Rappeler qu'on les utilise tous les jours, on en est très, très content quand même.
Ça tombe quasiment jamais en panne.
Et ça tombe quasiment jamais en panne. Merci à tous les trois.